Avec le journal d'Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Mark Zuckerberg, sous la pression du Congrès américain, le PDG de Facebook s'excuse pour ses errements dans la protection des données des usagers, mais aussi pour la manipulation politique dont aurait fait l'objet de la marque au pouce pendant la campagne présidentielle. Compte rendu de Grégory Phillips au début de ce journal.
Les fonctionnaires entrent dans la danse du printemps social avec une journée de mobilisation annoncée pour le 22 mai. Dans ce contexte, l'ancien chef de l'État, François Hollande, fait son retour dans le débat politique. Analyse à suivre de Frédéric Seyss.
À 7h12, le billet économique, la bataille de communication vient de commencer autour du prélèvement à la source des entreprises face au gouvernement, va nous dire Jean-Marc Chardon.
Et puis dans une quinzaine de minutes, la question du jour, Anne, armes chimiques, villes assiégées, bombardements, quelles limites impose le droit international ?
Aux États-Unis, Mark Zuckerberg fait donc son mea culpa devant le Congrès. Première audition hier soir devant le Sénat pour le président directeur général de Facebook. Une audition qui a duré plusieurs heures afin d'évoquer les scandales qui touchent actuellement la marque au pouce. Le vol de données personnelles de 87 millions d'utilisateurs par la firme Cambridge Analytica, mais aussi les ingérences russes lors de la dernière campagne des présidentielles. Le compte-rendu signé Grégory Phillips à Washington.
Le milliardaire de 33 ans, pour une fois en costume bleu strict et seul assis à un bureau face à 44 sénateurs qui disposent chacun de 5 minutes pour l'interroger sur le vol des données personnelles de 87 millions d'utilisateurs ou encore sur le rôle joué par Facebook dans la présidentielle de 2016. Zuckerberg qui commence par présenter ses excuses.
C'était mon erreur. Et j'en suis désolé.
Puis il fait face à un flot de questions auxquelles parfois il ne sait pas ou ne veut pas répondre.
Monsieur le Président, je vais demander à mes équipes de revenir vers vous avec ces informations.
Mais parfois, c'est lui, Zuckerberg, qui fait la leçon au sénateur quand ce dernier, par exemple, ne semble pas comprendre le modèle économique de Facebook qui, dit-il, ne fait pas payer ses utilisateurs.
Sénateur, nous diffusons des publicités.
Sur la protection de la vie privée, enfin, le sénateur Durbin fait mouche quand il demande au créateur de Facebook s'il est prêt à donner le nom de l'hôtel où il a dormi.
Non.
Ou bien s'il peut lire les textos qu'il a reçus la semaine passée.
Sénateur, non, je ne pense pas que je partagerai ça ici publiquement.
C'est sans doute de cela dont il s'agit, conclut le sénateur, du respect de la vie privée des gens.
Et aujourd'hui, le PDG de Facebook doit s'exprimer devant une commission de la Chambre des représentants. La protection des données personnelles, elle préoccupe aussi les Français. Ils sont de plus en plus nombreux à faire valoir leurs droits auprès de la CNIL. La Commission nationale informatique et liberté le constate dans son dernier rapport annuel, dont les détails vont suivre dans le journal de 8 heures. La CNIL, qui a d'ailleurs l'an passé infligé une amende de 150 000 euros à Facebook pour des manquements dans la gestion des données personnelles en France. Les derniers développements américain renforce Isabelle Falque-Pierrotin, la présidente de la CNIL, dans cette démarche.
Cambridge Analytica, c'est vraiment symboliquement un changement d'époque. Ces questions finalement de modèle économique constitué un peu avec des très larges bases de données à l'insu des personnes et accessibles à toute une série de tiers, c'est un phénomène que les autorités de régulation ont identifié déjà depuis plusieurs années. Mais finalement, sans arriver à convaincre le grand public que les possibilités de manipulation existaient réellement, que ça pouvait représenter un risque pour le grand public. Avec Cambridge Analytica, on voit bien que la prise de conscience est immédiate et que le grand public, les individus se disent « mais finalement, on a pu potentiellement faire l'objet d'une manipulation au cœur même de nos démocraties, vous voyez ». Pour nous, régulateurs, c'est malheureusement une confirmation de ce que nous disions et de ce que nous pensions depuis déjà pas mal de temps, mais ça va certainement aider aussi à la régulation.
Isabelle Falque-Pierrotin, la présidente de la CNIL, était avec Stanislas Vazak. L'autre actualité de la nuit, elle s'est passée à New York, au Conseil de sécurité de l'ONU, 4 jours après l'attaque présumée chimique en Syrie, dans la Ghouta orientale. Sans surprise, Moscou a opposé son veto à un projet de résolution américain destiné à créer un mécanisme d'enquête indépendant sur cette nouvelle tragédie qui a fait au moins 40 morts. Mais cette fois-ci, les Occidentaux semblent déterminés à agir militairement clairement contre Bachar el-Assad. Emmanuel Macron a annoncé hier soir une décision imminente de Paris et de ses alliés. Le chef de l'État qui a appelé hier a donné une chance au jeune prince héritier de l'Arabie Saoudite, MBS, qui a terminé sa visite de 3 jours en France en nourrissant une moisson de protocoles d'accord pour les entreprises des deux pays. 18 milliards de dollars sont en jeu. Visite toutefois critiquée par une dizaine d'ONG qui reprochent à Emmanuel Macron les contrats d'armement signés avec Riyad qui bombardent le Yémen. Le chef de l'État qui a toutefois annoncé une conférence humanitaire hier sur la situation de ce pays d'ici l'été.
7h05 sur France Culture, la suite du journal d'Anne Fauquemberg. En France, le printemps social compte désormais un nouveau mouvement de contestation.
La fonction publique appelle à une journée de grève et de manifestation le 22 mai prochain, préavis déposé par 7 syndicats de fonctionnaires. Ils dénoncent toujours le projet de réforme du gouvernement qui vise à supprimer 120 000 postes, favoriser l'embauche de contractuels et l'introduction de la rémunération au mérite, des préoccupations explicitées par Bernadette Groison, la secrétaire générale de la FSU et membre de cette intersyndicale.
Le gouvernement ne répond pas pour l'instant ni à nos préoccupations ni à nos demandes. Nous sommes inquiets sur l'avenir de la fonction publique. Le projet du gouvernement est très lourd de conséquences puisqu'il parle de supprimer des missions de services publics, il parle d'externalisation, de privatisation. Le projet envers les agents est également très lourd. Nous ne savons pas ce qu'il en sera pour l'instant du rendez-vous salarial, mais nous savons que le gouvernement a comme projet, par exemple, de recourir davantage aux contrats, ce qui est une atteinte bien évidemment au statut qui fragilise la fonction publique. Bref, un certain nombre de projets qui vont encore dégrader les conditions de travail des agents, qui ne vont pas dans le sens d'une reconnaissance de leur rôle et de leur engagement professionnel. Donc nous appelons dès à présent à une nouvelle journée de grève le 22 mai prochain dans la fonction publique.
Propos recueillis par Sarah Lemoine. Dans le même temps, à la SNCF, les syndicats ont écrit à leur direction hier soir pour la mettre en demeure de respecter leur droit de grève, tandis qu'à l'Assemblée nationale, les députés ont donné leur feu vert au premier article du projet de réforme de la compagnie de chemin de fer, la transformation du statut juridique du groupe et la fin du statut de cheminot pour les futurs embauchés. Chez Air France, c'est aussi le 7e jour de grève depuis le 22 février. Aujourd'hui, la direction a fait de nouvelles propositions hier soir pour tenter de mettre fin à ce conflit qui concerne les salaires. C'est ce que nous verrons avec Hakim Kasmi qui viendra nous présenter son choix de la rédaction dans une demi-heure à 7h35. Et puis 3 universités toujours complètement bloquées ce matin. Paul Valéry à Montpellier, Jean Jaurès à Toulouse et Paris 8. La ministre Frédérique Vidal dénonce une instrumentalisation par les extrêmes. Bonjour Frédéric Seyss.
Bonjour Anne.
Dans ce contexte de printemps social, François Hollande refait surface. L'ex-président de la République publie aujourd'hui son nouveau livre intitulé Les leçons du pouvoir, 400 pages, publié chez Stock. François Hollande qui met en garde Emmanuel Macron contre la brutalité des réformes.
Oui, au cours de son mandat, François Hollande avait lui-même été accusé de passer en force, notamment lors de la loi El Khomri. Il reconnaît d'ailleurs ce tort, mais il profite de la sortie de ce livre pour constater une brutalité du pouvoir actuel. Chaque fois que l'on veut aller brutalement et vite, qu'on ne prend pas le temps de la concertation, alors l'incompréhension est grande, a-t-il expliqué hier soir aux 20h de France 2. L'ancien président accuse aussi son successeur d'aggraver les inégalités sociales à cause d'une fiscalité injuste. François Hollande met en regard la hausse de la CSG pour les retraités et la suppression partielle de l'impôt sur la fortune pour les plus riches. Mais ce livre contient aussi une appréciation plus générale sur la méthode Macron. On y lit les mots monarchisme et narcissisme. L'ancien chef de l'État peste contre l'idée qu'un nouveau monde serait né avec son successeur. L'ancien monde a un nom, explique François Hollande. Cela s'appelle la démocratie, avec des partis politiques, des syndicats, un parlement, des élus et de la presse, assène-t-il dans le journal Le Monde. L'ancien président revendique aussi sa part dans le redécollage de l'économie française, assume les baisses de cotisations pour les entreprises et rappelle les mesures sociales mises en œuvre pendant le quinquennat comme le compte pénibilité ou le compte personnel de formation. Une manière de réhabiliter son bilan, de donner les explications qu'il n'a pas eu et le temps ou la possibilité de fournir au moment de son départ un peu précipité, au moment où l'opposition de gauche se cherche. Actuellement, François Hollande est certain d'être entendu à défaut d'être écouté.
Merci Frédéric Seyss, on vous retrouve pour votre billet politique. Après le journal de 8h, un point d'accord toutefois entre François Hollande et Emmanuel Macron, c'est sur la Syrie. Quand une ligne rouge est violée, transgressée, la seule réaction possible est une frappe ou des frappes, a estimé hier soir l'ancien chef de l'État sur France 2. François Hollande qui a rappelé qu'il aurait souhaité intervenir en septembre 2013 lors d'une première attaque présumée chimique de la part du régime syrien. Il avait été à l'époque freiné par Barack Obama. Jusqu'à 9 ans ans de prison requis par le parquet de Paris hier à l'encontre des 5 prévenus du premier procès du groupe djihadiste de Lunel. Dans cette petite ville de l'Hérault, une vingtaine de jeunes sont partis faire le djihad en Syrie. Le compte-rendu de ce réquisitoire, c'est avec Antoine Marette.
Dès le début de son réquisitoire, la procureure tient à porter une précision. Personne ne comparaît devant ce tribunal en raison de sa religion. Personne n'est poursuivi pour une simple pensée et personne n'est ici à la place de quelqu'un d'autre, à la place d'un frère parti faire le djihad, précise-t-elle. Ici, les prévenus sont jugés pour des actes. Tous les 5 ont participé, selon elle, à une infraction. Elle estime que 2 ont rejoint la Syrie. 3 autres ont été des soutiens ou des facilitateurs au départ. C'est à l'encontre de Hamza Mosli que le parquet demande la plus forte peine, 9 ans de prison. Il estime que le jeune homme de 29 ans a joué depuis Lunel un rôle majeur dans les départs vers la Syrie ou les conversions aux thèses djihadistes. La seconde peine la plus lourde est requise contre Ali Abdoumi, 8 ans de prison ferme. Il est accusé d'avoir rejoint Daesh avec ses 2 fillettes, ce qu'il nie, et de leur avoir montré des vidéos de décapitation. La procureure évoque une personnalité complexe chez cet homme qui prétend ne pas être musulman et le suspecte d'être retourné en France en vue de commettre un attentat. La procureure a requis entre 7 ans et 2 ans de prison ferme pour les 3 autres prévenus. Cet après-midi, ce sera au tour des avocats de la défense de plaider pour ce dernier jour du procès de Lunel.
Compte rendu signé Antoine Marette.